Bienvenue dans Sagesse du Monde avec Olivier Danès et David Goulois. Nous avons rendez-vous un lundi par mois, c'est-à-dire toutes les 4 semaines. Nous sommes venus le mois dernier et nous avons parlé de Madame Blavatsky. Deux émissions d'ailleurs sur Madame Blavatsky, sur la théosophie, sur la pensée théosophique. Le but de Sagesse du Monde, c'est de présenter un auteur, sa philosophie, de présenter certains ouvrages clés. Bref, de vous familiariser avec des philosophies spirituelles, des mythologies, on en étudiera aussi, peut-être des religions anciennes. Bref, de s'ouvrir à une dimension spirituelle, voire ésotérique. Et c'est le thème d'aujourd'hui, on va parler d'une... On va rester en fait dans la lignée ésotérique. Après avoir parlé de Madame Blavatsky, on a envie de vous parler, Olivier et moi, de Alice Bellet.
Alors David, bonsoir à tous d'abord. David, tu as prononcé le mot ésotérique. Alors je sais qu'on a déjà explicité par le passé ce mot, mais peut-être ça serait bien que tu puisses dire quelques mots.
Voilà. Alors ésotérique, justement c'est intéressant, dans le livre d'Alice Bellet, ce mot est souvent décrit très précisément. Il est amalgamé dans l'esprit populaire avec le spiritisme, les arts occultes, la divination, ce genre de choses. Et en fait il n'en est rien. L'ésotérisme proprement dit, c'est une philosophie qui traite du côté caché des choses et de l'origine et de la cause des choses. En d'autres termes, on étudie les lois, les principes supérieurs en tentant de voir leur application dans le plan physique. Donc on explique énormément de choses, les plans de conscience, l'origine de l'homme, de l'univers, et un petit peu les lois sur lesquelles reposent toutes ces choses et les applications pratiques que chacun de nous pouvons faire de cette connaissance qui renvoie au terme ancien de gnose. Je pense que la gnose, c'est le terme antique qui renvoie le plus à ce qu'on appelle maintenant l'ésotérisme proprement dit.
D'accord, donc on étudie ce qui ne se voit pas. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est la science des énergies, peut-être ?
Voilà, on parle aussi d'occultisme, mais là, encore une fois, il faut le comprendre. Pas comme les phénomènes médiumniques et autres, mais vraiment comme, en effet, cette philosophie profonde qui traite du côté caché des choses, donc du monde des énergies.
Alors, Alice Bellet ?
Voilà, Alice Bellet, Olivier, tu vas donc nous présenter Alice Bellet. Un petit mot avant sur l'adresse email. Si vous voulez nous proposer des thèmes, toujours autour de l'ésotérisme, de la spiritualité, des philosophies anciennes et autres, on vous propose une adresse email pour nous soumettre soit des titres, soit des questions. L'adresse email est la suivante, sagesse au pluriel, @wanadoo.fr. Sagesse au pluriel, @wanadoo ou orange, c'est pareil, .fr.
Alors Alice Bellet, c'est encore une femme extraordinaire qui est née, alors ses dates, c'est 1880-1949, donc on peut dire qu'elle a exercé son activité essentiellement au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Elle est née le 16 juin 1880, donc à Manchester, en Angleterre. Elle est d'une famille riche et noble. À 6 ans, elle perd sa mère, à 8 ans, elle perd son père, et elle se retrouve donc complètement sans parents, mais avec, comme ça se fait dans les familles anglaises, avec une tutrice qui sera sa tante. C'est une petite fille qui très tôt se pose des questions sur le sens de la vie. Alors elle raconte que elle n'avait pas trouvé le sens de la vie. Donc à 5 ans, elle avait déjà tenté de se suicider, ça n'avait pas marché. Et puis elle aura fait une nouvelle tentative à 11 ans et à 15 ans. Alors je le signale parce que c'est quand même quelque chose de
rare chez les enfants déjà.
Ouais. Alors avec ses parents, elle voyage au Canada, en Suisse, dans les Pyrénées, ça c'est avant la mort de ses parents, lorsqu'elle est toute petite, et ensuite, eh bien, à la mort de ses parents, elle se retrouve chez ses grands-parents. C'est une vie d'énorme discipline, d'une extrême normativité, où on apporte, il y a énormément d'importance qui est donnée à la notion de classe sociale. On lui apprend les manières, comment on se tient.
C'est l'Angleterre victorienne, hein.
Ça a l'air d'être très très emprisonnant pour l'esprit, peut-être même pour l'âme. On pourrait dire. Mais en même temps, il y a une grande richesse matérielle. Donc, elle a une gouvernante française. Elle passe tous les étés sur la Riviera jusqu'à son âge de 22, jusqu'à 22 ans, qui est l'âge de sa majorité à l'époque. C'est une vie de jeune fille mondaine, en fait. Et elle deviendra extrêmement religieuse. Elle dit elle-même qu'elle avait une sorte de sainteté ostentatoire, qu'elle avait un très mauvais caractère. Elle était donc assez, en fait, coupée des jeunes de son âge, je pense, par son caractère. Et il lui arrivait une expérience très étonnante en 1895. Elle a juste 15 ans. C'est un dimanche matin où elle ne se souvient plus pourquoi elle n'était pas allée à la messe avec sa famille, mais elle était seule à la maison dans le grand salon. Et elle était en train de lire lorsque soudain la porte s'ouvre et un homme de grande taille, vêtu à l'européenne, très bien habillé, avec un turban sur la tête, rentre. Elle reste complètement sans voix. Il s'assied à côté d'elle. Elle est restée pétrifiée. Et il lui parle pendant quelques minutes. Il lui explique qu'il y a un certain travail qui est prévu pour elle, mais que ce travail ne sera possible que si elle change considérablement sa manière d'être et qu'elle acquiert une maîtrise d'elle-même. Et si elle parvient à ça, eh bien, on lui fera confiance et elle pourra mener à bien ce travail qui sera un travail qui la fera beaucoup voyager et être très connue dans le monde. Alors Alice Bellet changera, elle s'appelait pas Bellet évidemment à l'époque, hein. Elle changera du tout au tout, presque... Enfin, très rapidement, elle devient beaucoup moins négative, elle apprend à contrôler sa langue. Et voilà, c'est un enfant qui change. Et peut-être que, David, ce serait intéressant que tu nous dises, parce que Alice Bellet, sur le moment, n'a pas su qui était cette personne qui est venue. Elle n'a osé raconter cette expérience à personne. Et après, elle a compris que c'était un maître de sagesse.
Voilà, en fait, on a parlé déjà des maîtres de sagesse il y a de cela un mois, lorsque l'on parlait de Madame Blavatsky, qui est la première à avoir fait connaître ses maîtres. Et à l'époque, un peintre avait en fait peint le visage des deux maîtres principaux de la société théosophique à laquelle Madame Blavatsky était rattachée et à laquelle d'ailleurs Alice Bellet s'est rattachée en faisant partie de ce groupe d'ésotéristes où elle a étudié les livres de Madame Blavatsky. Et force pour elle est de constater qu'elle se trouve en face du portrait de cet homme qui est le maître Koutoumi. Koutoumi, c'est un nom d'une famille indienne émigrée au Cachemire, donc dans le nord-ouest de l'Inde, et donc elle se rend compte que l'homme qu'elle a vu dans sa petite enfance n'est autre que le maître Koutoumi, qu'elle va reconnaître et plus tard identifie comme étant son maître. Donc un maître de sagesse, c'est un homme qui a une totale maîtrise de lui-même, une sagesse très profonde, et certains sont spécialisés, si l'on veut dire, peut s'exprimer un peu de la sorte dans les connaissances, le savoir des sagesses anciennes, de la tradition ésotérique, et c'est le cas du maître Koutoumi, qui est le maître d'Alice Bellet. Et le cas d'un autre maître dont tu vas nous parler, Olivier, c'est un maître qui va travailler durant 30 ans avec Alice Bellet, c'est le maître Joël Kou. Alors quand on dit travailler, c'est un petit peu particulier, c'est que si on accepte cette idée qu'il y a comme on les appelle en Orient, des immortels, des sages qui ont une maîtrise totale d'eux-mêmes, ils ont la maîtrise de la pensée, ils ont la capacité de pouvoir impressionner, c'est le terme technique, inspirer par le biais du mental supérieur des personnes entraînées, qu'on appelle donc des disciples en fait, et c'est le cas d'Alice Bellet qui, à partir de 1919, va avoir le premier contact avec cet autre maître qui est le maître Joël Kou, le tibétain.
Alors voilà, oui, donc on fait un grand saut on reviendra peut-être plus tard sur la biographie détaillée d'Alice Bellet. On fait un grand saut, elle a 39 ans, elle est en Angleterre, elle est nouvellement mariée ou sur le point de l'être avec Foster Bellet, c'est comme ça qu'elle a acquis son nom, et elle est contactée par un maître de sagesse, donc Joël Kou. Elle entend une voix claire dans sa tête, en fait, hein, elle entend sans aucun doute possible des paroles qui sont dites dans sa tête, et ces paroles lui demandent si elle veut bien tenter une expérience qui consisterait à recevoir le début d'un, à recevoir des manuscrits, en fait, recevoir des livres.
Un corpus d'enseignement complet, en fait.
Alors, je ne sais pas comment ça lui a été proposé au départ, mais il fallait déjà tenter l'expérience, et elle a refusé, hein. Ça a été son premier, elle avait un fort caractère, son première réaction a été de refuser. Le maître lui a dit, bon, ben, je prends le temps de réfléchir, ou prenez le temps de réfléchir, et je reviendrai dans 3 semaines, et puis on en reparlera. 3 semaines après, elle a de nouveau refusé, et il lui a laissé à ce moment-là 2 semaines, et elle a fini par accepter de tenter l'expérience, et c'est comme ça qu'elle a reçu par télépathie mentale, peut-être qu'il faudrait que tu nous en dises quelques mots, David, le premier livre du maître Dual Cool, qui s'appelle donc Initiation humaine et solaire, en 1919.
Alors elle avait très peur d'être justement une médium, ayant étudié quand même à la société théosophique, ayant fait partie de ce groupe, et puis l'ayant quitté pour des raisons un petit peu d'esprit, un petit peu de bigoterie, de compétition spirituelle. C'était l'époque où la société théosophique, après la mort de Madame Blavatsky, sombrait un petit peu dans une période un peu trouble, avec beaucoup d'illusions justement concernant tous ses maîtres, et elle avait très peur de développer un phénomène de médiumnité, c'est-à-dire de contact avec son subconscient, avec un plan de conscience pas très élevé. Et en fait, le maître lui a montré que c'est l'enseignement qui compte, et en voyant la nature de l'enseignement, elle pourrait se rendre compte par elle-même du niveau d'où il émane. Et en fait, elle s'est rendue compte en commençant à écrire que c'était d'un niveau très élevé, très abstrait. Donc, comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Elle a pu en conclure qu'elle était réellement en contact avec une conscience supérieure.
Et d'ailleurs, son premier ouvrage a été très bien accueilli par les théosophes au départ, qui ont commencé à le publier, jusqu'à ce que, peut-être comme tu disais, un sentiment de compétition arrive dans la société théosophique, et qu'ils arrêtent de publier Alice Bellet parce que ça mettait peut-être en danger leur propre l'enseignement qu'ils diffusaient.
Alors, ce qu'il faut dire justement sur ce premier ouvrage, c'est qu'il avait pour but de présenter une version réelle de ce que sont les maîtres, car après Madame Blavatsky, et à sa mort, donc, les gens ont commencé à se raconter des histoires, à penser qu'ils étaient en contact avec tel ou tel maître, à dire que le maître leur disait par télépathie de leur faire ceci, cela. Bref, d'imaginer complètement, d'élaborer une relation illusoire fondée sur leur désir d'être contacté. Quelque chose de très fréquent qui continue maintenant avec le channeling, par exemple. Tout ce qui est la médiumnité moderne est un exemple de ce type, alors que les maîtres ont toujours dit qu'ils ne contactaient pas les gens par le phénomène de la médiumnité, qui est un phénomène, un mode de contact sur le plan émotionnel inférieur, et qu'ils contactent des gens qui s'entraînent très très puissamment, parfois pendant longtemps, pour arriver à un tel contact. Donc ce livre, c'est souvent celui qu'on conseille, c'est un livre très général qui expose vraiment les maîtres, qui les décrivent, qui décrit la hiérarchie spirituelle, donc ce groupe de maîtres reliés entre eux, leurs fonctions, et les cinq grandes étapes qu'on appelle les initiations, donc le cheminement pour passer ces évolutions de conscience pour arriver à cette maîtrise. Donc c'est un livre vraiment de base qui est recommandé à tous ceux qui veulent commencer à étudier l'enseignement des maîtres à travers le maître tibétain, et lui-même ayant transmis ses enseignements à travers Alice Bellet.
Donc il nous donne, si je te suis David, il nous donne une idée du chemin qu'il y a à suivre pour arriver, être nous-mêmes en tant qu'être humain, devenir maître de sagesse.
Voilà, c'est l'idée qu'avait déjà avancé Madame Blavatsky, qu'on était tous divins, qu'on avait le soi, l'atman, comme on dit en sanskrit, qu'on a donc une parcelle de cette divinité, et que le but, la raison de la présence sur Terre, c'est de développer ce principe et de le manifester pleinement. Quand on le fait, on devient un maître. Il y a donc des étapes universelles que tous les humains, par lesquelles passent tous les humains, de cycle en cycle. Et donc ces étapes sont décrites, ainsi que ce groupe de maîtres. Donc bref, c'est un ouvrage de base qui est une sorte de panorama général sur la hiérarchie des maîtres et sur ce processus initiatique.
Alors en fait, Alice Bellet écrira sous la dictée télépathique de du maître Dual Cool jusqu'à la fin de sa vie, hein, jusqu'en 1949, donc pendant 30 ans.
30 ans, exactement. Oui.
Elle va lui servir en quelque sorte de secrétaire, si on peut dire ce mot-là, tout en développant, elle, de son côté, son activité de service dans le monde, et qui a donc été la création de l'école Arcane.
Voilà, on lit les deux, mais en fait, le travail de l'école Arcane est plus le travail de son propre maître, le maître Kutumi, donc ce maître indien, alors que le travail avec le tibétain est un travail, comme tu dis, de transcription d'ouvrage. Bien sûr, il y a un lien entre les deux, mais elle aurait pu, ma foi, ne pas créer d'école ésotérique, donc l'école arcane, et très bien faire ce travail avec le tibétain.
Donc le tibétain, en fait, il a écrit pour des occidentaux, si j'ai bien compris.
Oui, le tibétain, il est maintenant très connu dans les cercles ésotériques. Chaque maître a un travail à faire, lui le sien, et de faire connaître les enseignements cachés, anciens, dits ésotériques, au monde moderne, principalement aux occidentaux, qui les ignoraient pour une grande partie ou qui les avaient oubliés, et de les présenter sous une version, une approche nouvelle, moderne, adaptée à l'ère dans laquelle on entre, c'est-à-dire l'ère du Verseau. C'est son travail essentiel, spécifique.
Alors, est-ce que tu peux donner des exemples de cette approche?
Tu veux dire dans son travail?
Oui, par exemple, il parle de psychologie, il parle de
voilà.
C'est très concret, en fait.
Oui, c'est très concret. Il y a l'idée qu'on entre dans une nouvelle ère zodiacale, qui est l'ère du Verseau, qu'une ère dure un peu plus de 2000 ans, qu'on y est entré, dit-il, légèrement dès la fin du XVIIe siècle. Hein. Donc toutes les grandes évolutions qu'on a vues, révolution française, révolution industrielle, scientifique et autres, est en fait une manifestation de cette nouvelle énergie. Et on va y être donc pendant 2000 ans. Et il y a donc, au début de chaque nouvelle ère, un nouveau corpus d'enseignement nécessaire à donner pour faire face à cette nouvelle approche de la vie. Et donc c'est le travail de ce Tibétain de préparer l'humanité à reconnaître les maîtres, leur existence, et à donner les enseignements qui accompagnent cette ère nouvelle.
Donc des enseignements concernant...
Sur la psychologie, oui. Sur l'astrologie, sur une nouvelle forme d'astrologie, encore pratiquement inconnue, même encore à l'heure actuelle, sur une nouvelle façon de guérir, sur une nouvelle façon de méditer, donc, et une nouvelle façon aussi pour les disciples de concevoir l'évolution, l'entraînement. Donc on peut dire, le nouvel âge, proprement dit-on parfois, émane des enseignements d'Alice Bailey. Alors c'est devenu le New Age, on connotait péjorativement, dans le sens de channeling, médiumnité, mais à la base, c'est vraiment cette nouvelle ère zodiacale, ce nouvel âge, ces nouveaux enseignements qui correspondent, c'est une sorte d'ésotérisme moderne, qui a en fait été initié par Madame Blavatsky, qui elle-même travaillait et a travaillé une grande partie avec ce maître, le tibétain, qui lui a dicté une bonne partie de la doctrine secrète dont on avait parlé la fois dernière.
Voilà, donc Madame Blavatsky, qui elle est décédée en 1891. Donc Alice Bailey, elle commence son travail public 20 ans plus tard, quoi.
Ouais,
30 ans plus tard.
Oui, 30 ans, oui. Donc on peut dire que les idées fondamentales d'Alice Bailey, on peut les regrouper en trois grandes idées, on en a déjà un petit peu parlé. C'est révéler beaucoup plus concrètement et enlever les vieilles idées concernant ses maîtres, donc enlever tout ce qui est un petit peu farfelu, superstitieux ou complètement imaginaire, donc présenter vraiment qui sont ses maîtres, et en même temps l'idée que les hommes qui sont en contact ou qui travaillent en tout cas avec ses maîtres forment un nouveau groupe, un groupe qui va s'intensifier, et qui continue de s'intensifier, un groupe très important qui est le groupe des serviteurs du monde, dont Alice Bailey parle beaucoup dans ses ouvrages. Donc c'est la première grande idée. La deuxième grande idée, c'est ces nouvelles techniques de méditation, de guérison, de psychologie, qui sont toutes incluses, si l'on peut dire, dans un nouvel enseignement qui touche à la science des énergies, comme tu le disais, Olivier, à l'enseignement des sept rayons. Donc cette énergie fondamentale que l'on retrouve dans toutes les traditions et qui sont largement développées à travers plusieurs traités. Il y a le fameux traité sur les sept rayons qui aborde notamment cet enseignement sous toutes ses facettes. Selon le tibétain, c'est une révolution dans le domaine de l'ésotérisme et peut-être dans le domaine de la connaissance humaine. Et dit-il plus tard, on de plus en plus, pas seulement les ésotéristes, mais les scientifiques, les hommes de culture, iront vers cet enseignement sous diverses formes qui est très très large, qui touche à tout le champ de l'énergie, de la manifestation humaine.
Bon, voilà, on va revenir là-dessus un peu, David. Mais donc tu avais noté trois idées majeures.
Voilà, il reste la dernière. Alors la dernière qui apparaît à la fin du travail avec Alice Bailey dans les dernières années, c'est l'idée que ces maîtres vont revenir objectivement dans le monde et avec à leur tête donc celui que le Tibétain appelle Maitreya, que Madame Blavatsky appelait l'instructeur mondial.
Objectivement, tu veux dire
physiquement.
Physiquement.
Voilà. Ils étaient en fait retirés dans les montagnes, dans les déserts, dans des lieux vraiment des retraites. Et là, selon Alice Bellet, donc toutes les informations que l'on a sur eux, il était prévu que ces maîtres reviennent. Et cet enseignement, en fait, d'Alice Bellet, était un enseignement intermédiaire. L'enseignement premier était celui de Madame Blavatsky pour cette nouvelle ère. L'enseignement intermédiaire est celui d'Alice Bellet. Et une troisième phase était attendue avec les maîtres eux-mêmes. Et selon Alice Bellet, à la fin de 1945 à 1949, il y a deux livres importants qui est Le Retour du Christ, le Christ étant le leader, le maître des maîtres, qu'on appelle aussi donc Maitreya, l'instructeur mondial, qui a plusieurs noms en fait, mais qui est une entité, un maître, le maître des maîtres. Selon donc Alice Bellet, ce maître doit revenir dans les années qui suivront la fin de la guerre. Et avec lui, tout ce groupe de maîtres. Donc c'est la dernière grande idée et le travail vers lequel le Tibétain dit se diriger de plus en plus, c'est-à-dire faire connaître le retour objectif, réel, manifeste de Maitreya et des maîtres, et donc créer ce climat d'attente.
Alors David, est-ce qu'on peut reprendre donc la première des grandes idées sur la présentation des maîtres de sagesse? D'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qui sont ces maîtres? On a parlé du maître d'Alice Bellet, donc
qui était connu surtout en Orient, enfin même en Inde. Alors nous, en Occident, on a des maîtres à caractère religieux. On pense au maître Jésus, au maître Marie, qui continue même 2000 ans après à faire encore...
Marie, donc là, qui était la mère de Jésus.
Voilà, la Madone. On a des manifestations dans d'autres domaines religieux. Mais en général, ces maîtres ne sont pas très connus. Il y a des maîtres qui sont... Un maître qui est connu des cercles ésotériques, qui était le comte de Saint-Germain, un maître très, très 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 mystérieux sur lequel on a écrit beaucoup de choses, mais qui aurait vécu près de 200 ans, choses inhumaines, impossibles.
À quelle période?
Ça, c'était vers le 18e siècle, hein. Donc à cheval, comme ça, sur la période de la Révolution française, donc 18e.
Est-ce qu'Alice Bellet a dit combien il y avait de maîtres ou...
Alors, on a des informations très précises. C'est un petit peu la différence avec l'enseignement de Madame Blavatsky, qui, elle, annonçait déjà l'idée, qui était comme un pavé dans la mare à l'époque, hein. Une chose connue seulement de cercles de gens initiés, en contact même avec ce groupe d'êtres. Là, elle a annoncé cette présence, ce groupe réel de maîtres. Mais là, oui, on sait en fait énormément de choses. Pour ceux qui lisent Alice Bellet, ils verront qu'il y a un groupe très précis, ils sont 63 maîtres, qui est classé justement par secteur, qu'on va appeler des rayons.
Secteur d'activité,
et certains travaillent dans le domaine religieux, mais pas seulement, c'est un septième de leur travail. D'autres vont inspirer sans même se faire connaître, hein. Donc il faut comprendre, c'est sur le plan mental, hein. Ils vont être les inspirateurs des grands hommes politiques, d'autres des hommes de science, d'autres dans la culture, dans l'art, des grandes...
Est-ce que ces hommes de science ou d'art sont conscients d'être inspirés par des maîtres?
En général, non. C'est justement l'idée aussi de cette première idée, il existe des maîtres et il existe un groupe d'hommes en contact avec eux, il faut préciser inconsciemment ou consciemment, et pour la plupart c'est inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes, des nouvelles formes de psychologie. Je pense à Freud et à tous ses partenaires, par exemple, qui ont créé plein de mouvements psychologiques. C'est un secteur, c'est un moment de l'histoire. Il y a comme ça des découvertes, des choses. Alors on pense que c'est le simple génie humain, d'un point de vue ésotérique, non? Ça serait l'influence de ce groupe de grands sages.
Les maîtres inspirent, en créant des formes pensées, j'imagine, sur les plans du mental, inspirent des grands savants.
Ils sèment des idées clés qui vont après germer dans le mental des uns et des autres, qui peuvent prendre parfois des formes très diverses, mais c'est comme ça, on peut avoir deux découvertes scientifiques qui semblent différentes, et en fait, quand on les compare, on voit qu'il y a une idée centrale un petit peu. Donc chacun, on a plusieurs méthodes d'enseignement, de pédagogie qui vont germer à éclore à une époque, et quand on les compare, on voit qu'elles sont interreliées. Pareil dans les arts, il y a des mouvements dans les arts, il y a tous ces grands mouvements de civilisation, de la culture humaine suivent des cycles. C'est comme ça qu'on peut étudier.
C'est donc assez rarement que le, comment dit-on, je ne sais pas si on dit ça, le disciple en incarnation va être en contact conscient avec un maître, en fait. Ça, oui, c'est quelque chose de beaucoup plus rare.
C'est rare, et s'il le fait, bah, c'est le cas d'Alice Bellet, c'est pour une action très précise. Elle, c'était important qu'elle sache que ce groupe existait, bah, d'ailleurs pour son travail, pour pouvoir transcrire ses livres. Pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que peut-être que les gens découvrent Alice Bellet, mais dans les groupes dits ésotériques, c'est, je dirais, l'auteur principal. Ses livres sont traduits dans je ne sais pas combien de langues, mais oui, je veux dire, ils sont vraiment partout présents, en Amérique, en Australie, au Japon, dans l'Asie, enfin, je veux dire, en Europe, bien sûr, en Afrique, je veux dire, c'est vraiment présent partout. Ces livres et donc cette pensée et donc l'enseignement de ce Tibétain est très très populaire dans les mouvements philosophique, ésotérique, spirituel.
Alors, c'est
de façon
un enseignement
générale.
Quand même assez difficile à appréhender.
C'est sa réputation, voilà. Donc, vu que c'est pas justement un contact avec une âme qui va vous dire de vous brosser les dents ou de faire attention à votre santé ou un petit peu les messages qu'on peut avoir par des médiums ou alors d'autres un peu plus inspirés si l'on veut, enfin avec des channels qui vont parler de lumière, enfin de choses très très vagues. Là, c'est pas le cas du tout, c'est un corpus d'enseignement. Si vous prenez le livre, à mon avis, le plus dur, qui est le traité sur le feu cosmique, c'est un livre qui explique qui a trois feux qui existent partout et il montre l'interrelation de ces trois types de feux qui créent toutes les formes de vie, de conscience et d'être-té partout sur la Terre, dans l'univers. Enfin, c'est très très complexe.
Alors, pour distinguer justement entre un enseignement de valeur comme ça et un enseignement que tu appelles de channeling, d'après ce que j'ai compris, un des critères c'était déjà de voir qu'est-ce qui est touché en moi. Est-ce que c'est l'intuition qui est touchée ou est-ce que c'est un côté émotionnel.
Voilà, c'est le degré d'abstraction, je dirais. Plus il y a un degré d'abstraction dans l'enseignement, dans les pages que vous lisez, plus ça veut dire qu'ils émanent d'un niveau abstrait. C'est tout simplement ça.
Donc ils font appel à votre capacité d'abstraction.
Les livres sont faits d'une telle manière que c'est pas des romans de gare. Donc quand on les prend, quand on commence à les étudier, il faut relire des passages, il faut s'arrêter. On est presque obligé de méditer pour essayer de comprendre ce qui est dit. Et parfois, on lève un voile. C'est écrit pour stimuler notre mental supérieur, notre abstraction. C'est pas des livres pour amagasiner plein de connaissances, parce qu'il y a plein d'idées qui sont redites sous d'autres formes. Mais ça, c'est pour ouvrir des pans de conscience.
Et un autre critère, ça serait de s'apercevoir que dans ces enseignements-là, il y a vraiment du neuf, des choses qui n'avaient jamais été dites avant. Sur Terre, enfin.
Un exemple typique, c'est que avant, si vous lisez, moi je les ai un petit peu étudiés, les traditions gnostiques, philosophiques et autres, avant Madame Blavatsky, hein, et jusqu'à très très loin dans l'Antiquité, vous avez en gros la présentation de l'homme en trois. L'esprit, l'âme, le corps. Vous avez cette trinité. Il y a un septénaire qui est souvent cité. Partout, il y a cette Dieu, il y a cette couleur, il y a cette note de musique. Souvent, il y a des hiérarchies de dieux qui sont classées en sept et autres, mais il n'y a pas un détail précis pourquoi ce sept, d'où il vient, comment ça fonctionne. Dans Alice Bellet, vous allez avoir directement l'enseignement sur ces énergies qu'elle appelle les rayons. Enfin, que le Tibétain, il faudrait préciser, c'est l'enseignement du Tibétain qu'il appelle les rayons. Et tout l'aspect traditionnel, religieux, philosophique, du coup, ancien, est retiré et on aborde directement cet enseignement avec des termes modernes, nouveaux.
Qu'on ne trouve pas dans les enseignements arrivés par channeling, en fait.
Voilà.
Et il y a un autre critère aussi pour distinguer entre l'enseignement par channeling et l'enseignement vraiment fondé, c'est, d'après ce que j'ai compris, hein, David, le fait que ça reste dans le temps. C'est-à-dire, ce qu'on a lu va avoir un effet sur nous dans le temps et va avoir une validité dans le temps.
Oui, il y a un caractère universel parce que ça touche à des idées, et les idées, comme disait Platon, sont universelles, plutôt qu'une pensée un jour et une autre pensée un autre jour. C'est ça, il y a un caractère universel, mais en même temps appliqué à maintenant. Du point de vue des maîtres, il n'y a qu'un seul enseignement, mais il varie de cycle en cycle, d'époque en époque, et là c'est ce même enseignement sur un tour supérieur de la spirale. Mais il y a un caractère universel et en même temps très pratique, très moderne, très adapté.
Alors David, je te propose une petite pause. Et puis on va reprendre tout à l'heure avec ce que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, ce groupe de serviteurs du monde. Serviteurs, tu nous expliqueras ça après la pause.
D'accord, à tout à l'heure.
Alors, nous sommes en train de vous parler des enseignements qui ont été transmis par Alice Bailey, ou nous vous parlons d'Alice Bailey, je ne sais pas bien, ça se confond quelque part. Et David, tu nous as expliqué qu'une des grandes idées majeures qu'avait apporté l'enseignement d'Alice Bailey, c'était en fait une présentation d'un groupe des maîtres de sagesse, d'un groupe de maîtres de sagesse avec leurs fonctions, etc. Et tu as mentionné le fait qu'ils avaient peut-être rassemblé autour d'eux des serviteurs, des êtres humains. Donc Alice Bailey a nommé ce groupe le nouveau groupe des serviteurs du monde. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
Oui, c'est une idée intéressante. L'idée selon laquelle des gens ne se connaîtraient pas, mais auraient un point en commun, c'est qu'ils auraient envie au fond d'eux, et pas seulement l'envie, mais qu'ils mettraient en place une attitude réellement tournée vers les autres, vers ce qu'on appelle le service. Un des points, un des thèmes majeurs de cette nouvelle ère, de l'ère du Verseau, qui sera une ère de fraternité, d'universalité, et une ère de service en groupe. Donc ce groupe, il arrive justement, il se forme parce que l'humanité commence à fonctionner, je dis bien commence, hein, comme un tout et comme un organisme. Et dans cet organisme, il y a un groupe qui est peut-être un peu plus avancé sur le chemin de la conscience, qui sont ceux qui sont, en lien, qui sont intermédiaires entre l'humanité dans son ensemble et ce groupe de maîtres, de sages, qui le sont malgré eux, sans même le savoir, rappelons-le. Et c'est ce qu'on appelle le nouveau groupe des serviteurs du monde. Alors ça va de ceux qui font preuve de bonne volonté, qui aimeraient un monde meilleur, et qui aspirent tout simplement, et qui font des petites choses de temps en temps, ou même rien, mais au moins qui aspirent à cela, à ceux qui sont beaucoup plus impliqués, et ceux qui parfois sont très très impliqués dans une tâche, dans un domaine de service. Donc l'idée, c'est que ces gens sont plus reliés subjectivement qu'objectivement. Ils ne se connaissent pas
entre eux,
donc peu importe leurs origines, leur peuple, leur pays, leur âge, leur sexe, leur culture, mais tous ces gens ont en commun, c'est pour des maîtres, c'est comme des points de lumière un petit peu partout sur la planète, et tous ces gens vont travailler dans des domaines qui leur sont propres, la politique, on a dit, hein, l'économie, la culture, donc l'art, donc la science.
En fait, les maîtres travaillent par l'intermédiaire de ce groupe-là.
Tout à fait, c'est ça.
C'est... Parce qu'Alice Bellé parlait aussi d'un plan, elle disait...
Voilà, c'est qu'il y a un plan d'évolution à un moment donné pour une ère zodiacale donnée. Donc là, il y a un nouveau plan, il y a des nouvelles choses qui vont émerger, ce qui est d'ailleurs responsable de la crise actuelle. On est entre l'ère ancienne, et on s'est fonctionné que comme l'ère ancienne, avec les vieux réflexes et les hommes du passé qui représentent justement ces vieilles méthodes. Et on a des gens qui sont ouverts vers d'autres perspectives, mais qui sont encore peut-être un petit nombre vis-à-vis de l'ensemble de la planète, mais qui vont croître et qui, au fur et à mesure, vont voir qu'ils existent les uns les autres, qui peuvent travailler ensemble, qui commencent à se regrouper, à travailler ensemble dans des domaines d'activités vraiment, vraiment différents, mais qui ont tous en commun un amour peut-être de l'humanité, un esprit de service, de coopération, d'entraide, et vraiment aussi un désintéressement. C'est-à-dire, ils ne font pas ça pour accumuler richesse, pouvoir, influence ou autre.
Donc tu voudrais dire, sur Terre, il y a un peu deux groupes d'hommes. C'est peut-être une caricature, c'est peut-être une simplification, mais il y aurait deux groupes d'hommes, un groupe d'hommes...
Il y en a trois, si on peut dire. Il y a le groupe dont on a parlé, ceux qui sont vraiment tournés vers l'avenir, vers les nouvelles valeurs. Il y a un groupe réactionnaire très ancien,
qui est attaché au passé.
Voilà, mais qui contrôle énormément de choses dans plein de domaines, assez puissant. Et puis il y a la masse humaine, sans connotation péjorative, hein, c'est la grosse partie de l'humanité. Et là encore, il y a même des groupes très différents entre des classes bourgeoises qui laissent un petit peu aller, et puis des classes moyennes, et puis parfois des peuples dans une extrême précarité, qui eux sont soit n'ont pas les moyens, soit n'ont pas l'ouverture de conscience pour vraiment prendre en main leur vie, leur destin. Et on a un petit peu ces deux groupes qui vont dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc l'idée dans Alice Bellé, c'est que ce groupe de nouveaux serviteurs va gagner en ampleur, il va grandir. Si on voit les gens qui manifestent dans la rue, c'est la manifestation de ce groupe-là. Donc des gens qui ne se connaissent pas, qui vont se réunir et qui ont pour la paix, contre l'exploitation du tiers-monde, pour le respect de l'écologie, pour peu importe les domaines, ma foi. Mais ils ont en commun ces valeurs universelles qui sont les valeurs de l'âme.
Donc fraternité,
coopération, désintéressement, voilà le sens du service. Donc ça, c'est une idée vraiment fondamentale dans les livres d'Alice Bellé, qui est donc une idée vraiment nouvelle et qui va grandir.
Alors David, veux-tu nous parler davantage des livres d'Alice Bellé? J'ai mentionné tout à l'heure son premier ouvrage, enfin Initiation humaine et solaire, qui est en fait un livre qui est un livre du Tibétain et non pas d'elle-même. Je sais qu'elle a écrit elle-même certains livres.
Voilà, alors on pourrait, justement, on va essayer de regrouper les livres, donc c'est toujours difficile, il y en a vraiment... En fait, 18 du Tibétain, et il y en a 6 d'Alice Bellé, pardon, dont un qui est commun avec le Tibétain proprement dit. Donc, d'un point de vue personnel, les gens peuvent lire un livre qui est peut-être mal, qui porte un titre un petit peu bizarre, c'est Traité sur la magie blanche, où il y a dedans des règles. La magie dont il est question, c'est la magie intérieure, c'est la transformation de soi. Il est sous-titré Le sentier du disciple, et je pense qu'il aurait dû être traduit comme ça. Donc c'est un livre où il y a énormément d'aspects pratiques pour sortir un petit peu de ce monde émotionnel, pour placer sa conscience sur le plan mental, pour vraiment transformer sa vie. C'est un livre très très pratique à l'usage de ceux qui font un chemin spirituel. Donc je le recommande, Traité sur la magie blanche. Pour la méditation, il y en a deux qui sont très importants. C'est Lettres sur la méditation occulte, où il est présenté une nouvelle façon de méditer, où l'idée, c'est pas de méditer sur une divinité ou même un maître. C'était un petit peu le cas dans la société théosophique, mais de méditer sur son âme, sur sa divinité intérieure. Et là-dedans, il y a aussi des méthodes, des voies très très précises. La méditation occulte, elle est occulte dans ce sens où elle est très précise, on dit qu'elle est scientifique. Donc il y a énormément de techniques vues du point de vue du Tibétain, qui est un maître, rappelons-le, qui est vraiment très instruit dans tout ce domaine-là. Il y a ce livre-là, et un livre proprement dit d'Alice Bellé, qui s'appelle « De l'intellect à l'intuition ». qui est peut-être plus facile d'abord d'accès. Hein. Et après, les gens peuvent lire le livre sur la méditation occulte qui est fait de lettres, comme son titre l'indique, où il parle de la méditation avec visualisation, sur les couleurs, sur les sons. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et puis des règles qui correspondent à la méditation. Donc voilà un petit peu pour les aspects peut-être personnels de développement de soi, en tout cas. Le livre peut-être le plus de philosophie ésotérique, on en a un petit peu parlé, c'est le traité sur le feu cosmique. Un livre, un énorme pavé de 1000 pages qui parle des différents feux dont déjà Madame Blavatsky parlait. Il y a un feu qui correspond à celui de l'esprit, un feu, donc ce sont des feux là immatériels, une énergie. Il y a un feu qui correspond à l'énergie de l'âme, de la conscience, et il y a les feux, le feu qui est à l'origine de tout ce qui existe. C'est un petit peu une vieille idée qu'on trouve chez les alchimistes et chez les philosophes du feu et dans toutes les traditions, l'idée qu'il y a un feu très subtil qui est à l'origine de tout. Donc ça, c'est un livre vraiment très ésotérique qui parle de la constitution de l'univers et qui présente pour la première fois, je pense, les lois. Quelles sont les lois divines ? On dit en général, il y a des lois, mais en fait, on n'en sait rien. Là, les lois sont classées. Il y a 3 lois majeures, puis après il y en a 7. Enfin, tout est classé en fonction de ces fameux rayons.
Alors, donne-nous des exemples, David.
L'idée, par exemple, qu'il y a une loi de synthèse, que tout tend vers la synthèse. Que tout est relié dans l'univers, mais aussi dans le corps d'un homme, au sein d'un règne, dans l'humanité, entre les règnes, entre les végétaux, les animaux, les minéraux. Que tout ça tend vers un but ultime, vers un dessin. Et c'est la loi de synthèse qui tire tout ça en avant. Voilà, c'est un exemple, par exemple. Et donc, c'est décrit à chaque fois où ce principe de synthèse s'applique. Alors, dans l'homme, sur la planète, dans l'univers. C'est très, très précis. Donc, voilà, celui-là, à recommander pour ceux qui ont peut-être une tournure d'esprit abstraite.
Donc, traité sur le feu cosmique. Hein.
Voilà, qui aime la philosophie, la métaphysique. Voilà, c'est un livre vraiment plus de métaphysique.
Blavatsky avait dit, je crois, qu'il y aurait un complément à un de ses enseignements, voilà. la doctrine secrète. Est-ce que c'est
exactement ce livre-là. Elle a dit qu'un disciple, donc quand on dit un disciple, c'est sans nommer le sexe, hein, qu'il soit un homme ou une femme, elle ne savait pas elle-même à l'époque, un disciple viendrait et apporterait une continuité à son œuvre majeure, à elle-même, la doctrine secrète, qui là est un livre de métaphysique sur les origines du monde, alors que le livre d'Alice Bellet, bien sûr, contient de la métaphysique, mais une psychologie, c'est la clé psychologique, dit-on, de la doctrine secrète, c'est-à-dire qu'il apporte une autre ouverture, une autre version sur un aspect psychologique, sur l'aspect conscience, on va dire, à travers ces différents feux.
D'accord, donc traité sur le feu cosmique, vraiment pour les
pas mettre entre toutes les mains.
Voilà, 1000 pages, tu disais, et peut-être pas
beaucoup
commencer
de diagrammes, de dessins, de choses.
Peut-être pas commencer non plus à Alice Bellet par ce livre-là.
Alors après, il y a vraiment le fameux traité sur les 7 rayons, qui est l'autre aspect majeur de son œuvre. C'est souvent même l'aspect majeur. C'est celui dont on parlera plus la fois dernière.
La fois prochaine.
Donc dans 4 semaines. Où on parlera plus donc de l'enseignement du Tibétain en lien avec les 7 rayons. On peut juste en dire quelques mots. C'est l'idée qu'il y a 7 types d'énergie fondamentales qui pour nous émanent du soleil, mais qui en amont du soleil émanent de certaines constellations, donc au sein de la galaxie. Si on regarde le ciel, on voit les 7 étoiles de la Grande Ourse, voilà. Ces 7 énergies émaneraient de ces 7 étoiles, donc elles font un long voyage avant de nous parvenir, elles transitent par les planètes et touchent chaque être humain, et on peut dire que chaque être humain est sous l'influence plus importante d'un de ces rayons. Et c'est un petit peu cette nouvelle psychologie qui va tendre vers l'étude de ces types d'individus. Donc on correspondrait plus à une couleur, à un rayon, à une énergie particulière, ce qui explique que l'humanité est si différente et que les êtres humains sont si différents. Alors il y en a une qui est principale, mais après il y a des... Au sein de... Ça c'est pour l'aspect conscience, l'aspect l'âme, si l'on veut. Hein,
Donc en fait, il y a des raisons ésotériques, on va dire cachées, enfin non visibles, pour lesquelles nous sommes si différents les uns des autres.
Voilà, ce sont vraiment ces raisons-là. Et l'idée, donc, c'est que selon le rayon sur lequel on se trouve, le courant d'énergie, en fait, en quelque sorte, il y a une psychologie qui nous est propre. Donc il y a une façon de méditer aussi qui va dépendre de tout cela. Donc d'entrer en contact avec cette partie spirituelle en nous. Et puis il y a donc cette psychologie, donc avec ses travers, ses qualités, ses défauts, une voie d'évolution, une façon d'évoluer qui va être très différente. J'ai un exemple, certains vont être très très sensibles à l'ordre, à la rigueur, à la, alors ça peut donner des névroses, des distorsions, mais il y a quand même en fond cette énergie, ce goût du rituel, de l'ordre, de l'organisation,
les gens méthodiques, perfectionnistes,
voilà, avec le goût donc des choses assemblées ensemble, qui fonctionnent ensemble.
Ça correspond donc à un rayon
particulier. Il est très présent dans l'armée, par exemple. Donc il y a aussi des groupes d'individus qui vont dans des corps sociaux, qui se ressemblent, quoi. Et ce qui est très différent de la pensée mystique, religieuse, qui elle fonctionne par idéalisme, qui est plus vague, plus flou, plus mystique. Donc là, on en trouve beaucoup dans les groupes religieux, mais en politique et dans les grands idéaux. Donc voilà, c'est très intéressant parce que dans ce traité sur les sept rayons, on voit que des pays, des cultures entières reposent sur tel ou tel type d'influence. Et il y a donc l'astrologie qui est immédiatement reliée à cela, en ce sens que l'astrologie étudie à travers les planètes qui vont correspondre à certains rayons, justement, l'astrologie étudie les influences de ces rayons-là, comment ces rayons nous parviennent, comment ils nous touchent.
Alors, tout ça m'a l'air assez compliqué quand même, David.
Tout ça, c'est assez complexe. Donc il faut bien comprendre qu'on parle ici de philosophie ésotérique. Hein. C'est pas de la philosophie tout court, mais pour ceux que ça intéresse, ils trouveront vraiment énormément de choses aussi dans le domaine de la guérison. Ces fameux rayons touchent les fameux centres d'énergie dont on parle un petit peu partout, ces fameux chakras. 700 d'énergie qui sont sous l'influence de ces rayons. Donc ça, c'est le gros pavé, c'est 5 volumes qui traitent, donc c'est un traité sur les 7 rayons. C'est l'œuvre, le cœur de l'enseignement d'Alice Bellay.
Alors ensuite, il y a aussi toute une partie de son œuvre qui a rapport au, donc comme tu disais, son dernier livre, Le Retour du Christ. Il y a des livres très concrets sur la vie après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, comme aussi le problème de l'humanité.
Alors voilà, j'aurais envie de classer ensemble, comme tu dis, les problèmes de l'humanité, qui exposent un petit peu les grands problèmes, donc du point de vue des peuples, du point de vue des enfants, du point de vue du travail, enfin plein de sujets très très précis qui sont. Alors là, on voit aussi la pensée d'un maître, c'est qu'on apprend énormément de choses et on comprend énormément de choses quand on lit ce genre de livre. On voit qu'il y a une pensée profonde, une connaissance de l'humain et de l'humanité de façon générale très 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 vaste.
Donc ça, c'est scientifique aussi. C'est une
pensée globale.
Il va parler du problème du sexe. Il va parler du problème des races.
Des peuples, des problèmes psychologiques des nations. Alors il y a un autre livre qui est lié à celui-ci. C'est La Destinée des Nations. C'est l'idée que les nations forment un corps, une entité complète, et que si toutes les personnes sont liées à une nation, c'est qu'il y a aussi un rayon, une énergie globale pour une nation, ce qui fait qu'on va reconnaître même un Français d'un Espagnol, dans les grandes lignes, hein, j'entends. Hein. C'est l'idée qu'il y a un dessin, que chaque nation a exprimé un caractère, une identité qui lui est propre, et ça c'est analysé.
Un peu comme si une nation avait une âme propre.
Voilà, c'est ça. Et donc ça c'est analysé dans La Destinée des Nations, et ces livres un petit peu préparent un peu le climat dans lequel on se trouve maintenant. Un troisième livre aussi qu'on pourrait associer, c'est, il parle du mirage, problème mondial. Le mirage étant l'illusion principale et le problème majeur selon le tibétain, qui est celui de c'est l'illusion sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, c'est le monde du désir, des fantasmes, des au sens large, hein, pas seulement au sens sexuel. Quand on dit fantasme, on pense toujours à non, c'est tous les rêves, les désirs,
les choses qu'on invente dans sa tête,
les voilà, tout cet énorme nuage qui en fait nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, nous empêche vraiment de vivre et de répondre profondément à ce qu'on est. Donc ça, c'est il y a des techniques aussi. C'est un livre très pratique. Des techniques pour présenter ce problème mondial et voir comment on peut au fur et à mesure s'en libérer.
Pour elle, c'est le premier problème du monde, le mirage.
Oui, c'est le problème essentiel. Et le tibétain indique que le plus grand service qu'on pouvait rendre au monde, c'est de commencer à vivre une vie plus mentale qu'émotionnelle. on soulage énormément le monde en retirant sa quote-part à tout ce monde. Bah, on voit, regardez la télévision, vous verrez, c'est le monde du mirage. On est sur le monde du faux, du virtuel, où le désir est surpuissant. Là, c'est par le monde du mirage c'est à cause de ce mirage émotionnel qui fait qu'on est aussi égoïste, qu'il y a des nations qui regorgent de richesses et d'autres, par exemple, qui vivent dans le plus grand dénuement. Voilà, ça c'est une manifestation.
La peur de manquer, ça fait partie de
voilà, donc c'est toutes les formes de peur, de tout ce qui en fait retient l'humanité. Donc un livre très intéressant. Et là on rentre dans les deux livres dont tu as parlé, Olivier, qui est Le Retour du Christ et un titre un petit peu barbare, L'extériorisation de la hiérarchie. C'est l'idée que ce groupe de maîtres va revenir dans le monde. Et dans Alice Bailey, vous avez la date de 1975.
Hiérarchie, tu as dit le mot hiérarchie, qu'est-ce que tu entends par là?
Alors c'est un terme un petit peu barbare et en même temps très précis, c'est que ce groupe de sages, de maîtres, forme une hiérarchie déjà par leur rayon. C'est-à-dire que tel maître ont tel rayon.
Donc ça veut dire rayon...
Énergie, groupe d'énergie.
Oui, c'est des caractéristiques, on pourrait dire.
Pour être prosaïque, c'est comme au supermarché, il y a le rayon de l'épicerie, il y a le rayon de la viande, il y a le rayon de... Tu vois, il y a des rayons, donc... ou comme une roue avec plusieurs rayons, et puis le moyeu au centre. Donc au centre de cette hiérarchie se trouve le maître des maîtres, celui qui porte plusieurs noms, le Christ, l'imam Mahdi, il a plusieurs noms, il est attendu sous différents noms. On l'appelle plus l'instructeur mondial ou le maître des maîtres, ou alors Maitreya. Donc il est question du retour de ce grand maître, du maître des maîtres, qui va inaugurer, selon Alice Bailey, une nouvelle ère dans laquelle l'humanité va reconnaître le fait qu'elle n'est pas seule, qu'elle a toujours été guidée par ce groupe de maîtres qui était avant en fait un petit peu associé aux anges, au monde des esprits, enfin quelque chose d'assez vague. Certains connaissaient ou présupposaient qu'il y avait autre chose ailleurs, qu'on était aidé par son étoile, par des forces supérieures.
Son ange gardien,
etc. Là, selon Alice Bailey, on entre depuis 1975 dans la troisième phase, après Madame Blavatsky, après Alice Bailey, une troisième phase qui est la phase où ces maîtres vont commencer à se faire connaître. Et à mon avis, le seul auteur connu qui, en 1975, a commencé ce travail, c'est Benjamin Creme, on en parlera un jour dans une des émissions, qui lui fait connaître ouvertement la présence de Maitreya et des maîtres, et qui est un fin connaisseur des enseignements d'Alice Bailey et de Madame Blavatsky. Donc un petit peu à la fin de sa vie, Alice Bailey a traduit... a écrit ces deux ouvrages majeurs qui sont vraiment qui sont beaucoup plus précis. En fait, le thème du retour des maîtres est présent dès le premier livre. Si vous lisez Initiation humaine et solaire, il y a déjà cette idée qu'à la fin du siècle, donc du 20e siècle à l'époque, il y aurait déjà un début d'une émergence, mais on ne savait pas sous quelle forme, comment. Si ce fameux maître Maitreya viendrait, qui travaillerait à travers un disciple comme ça, comme on a toujours fait dans le passé. Alors que dans ces deux derniers livres, il est vraiment question, alors c'est très très précis pour ceux qui s'intéressent au sujet, lisez Le Retour du Christ, vous aurez plein d'informations sur ce grand maître. Donc Christ, on dit, c'est religieux, c'est chrétien. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les mots pour expliquer, nous on est de tradition judéo-chrétienne, donc on va plus penser au Christ, mais un musulman, s'il attend quelqu'un, lui ça va être l'imam Mahdi, si c'est un hindou, ça va être Krishna ou l'avatar Kalki, si c'est un juif, ça va être le Messie, Meshia, ou si c'est un ésotériste, il connaît bien toute cette existence, il va attendre l'instructeur qui correspond. L'avatar de l'ère du Verseau, comme on l'appelle, celui qui correspond au nouveau cycle.
Alice Bailey aurait écrit plutôt pour les chrétiens, alors ?
Non, pas du tout.
Elle était même profondément
voilà,
chrétienne.
Voilà, c'est ça, en fait. L'idée, c'est qu'elle était chrétienne. Il n'y avait pas forcément de nom. C'est surtout le mot Christ qui a été retenu, mais on trouve le mot Maitreya ou Maître des Maîtres. Dans les livres de Benjamin Creme, qui est donc un contemporain, lui, il parle ouvertement de Maitreya. Et on a moins le mot Christ.
Alors que Blavatsky, au 19e, parlait de l'instructeur mondial, sans donner de nom, quelque part.
Elle disait, comme je l'ai dit là, c'est différents noms, c'est différentes appellations. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a toujours au sein de ce groupe de maîtres, leur leader.
D'accord, donc tu expliquais, il y a une roue, donc au centre de cette roue, il y a ce grand leader, et puis après, il y a sept rayons dans la
voilà.
roue, et on va trouver des maîtres qui ont des caractéristiques différentes.
Et un point de vue inférieur, enfin reflété au niveau humain, c'est qu'on va trouver des individus dont l'âme correspond à tel ou tel rayon, donc ceux qui vont avoir une... On peut les citer un peu, il y a le rayon de la volonté spirituelle, il y a le rayon de l'amour spirituel, de l'intelligence spirituelle, il y a le quatrième rayon, plus sensible à la beauté, le rayon de la connaissance scientifique, le cinquième, le rayon on a parlé du sixième, le rayon de l'idéalisme, de l'abstraction.
Ça veut dire que chaque être humain, en quelque sorte...
Attends, je finis. Le septième rayon, excuse-moi, le rayon de l'organisation, du rituel, voilà, les sept grands groupes d'énergie. Pardon, Olivier.
Oui, donc chaque être humain dépendrait, en quelque sorte, d'un maître ou relèverait d'un maître
serait relié donc ça va très très loin. C'est un vieux système qui existe depuis toujours dans l'ésotérisme, c'est le système d'analogie. Donc un maître est relié justement par ses rayons, c'est les rayons qui expliquent l'analogie. Il va être relié par exemple à des animaux qui vont plus correspondre à ce rayon là c'est pour ça qu'on avait des dieux associés aux animaux en Égypte, en Inde, partout. Il va être lié plus à certaines plantes, à certaines pierres, là, donc à des cristaux selon les couleurs notamment. Il va être lié donc à un groupe de maîtres, mais aussi à des planètes, à des constellations. Voilà, on a un très vaste panneau, un très vaste panorama de l'ensemble de tout ce jeu d'influence qui fonctionne par regroupement, à travers un regroupement donc ésotérique qui n'est pas encore reconnu scientifiquement, mais selon le tibétain ça le sera dans des décennies voire des siècles à venir. L'idée qu'il y a sept grands groupes, sept grands types d'énergie, que c'est comme sept grands courants d'énergie, que chacun de nous, alors on n'est pas seulement sous l'influence d'un des courants, mais on simplifie là, mais on est par notre âme, notre divinité, on est plus sous l'influence de l'une des sept.
Donc Alice Bellet, un vaste schéma explicatif du monde, de l'homme, de l'évolution, de l'existence d'un plan d'évolution, l'existence de niveaux de conscience différents.
Voilà. C'est très très précis en fait. Hein. Si on compare les anciens livres d'alchimie, de philosophie, de gnose et autres, on voit que c'était ancien, c'était vaste, c'était vague. Là, pour ceux que ça intéresse, donc... beaucoup de compléments et de connaissances nouvelles sur cet enseignement ésotérique. Je vois qu'on arrive à la fin de l'émission.
Oui, on va vous quitter pour ce soir et puis on vous retrouvera le 4 décembre, lundi 4 décembre, pour la suite de cette émission, toujours sur l'enseignement transmis par Alice Bellet. Et on reviendra peut-être un petit peu sur la biographie d'Alice Bellet à ce moment-là.
On va redonner l'adresse email si vous voulez envoyer des questions ou proposer des thèmes. C'est sagesse au pluriel. @wanadoo.fr, sagesse au pluriel, pardon, @wanadoo.fr ou orange.fr, c'est pareil. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. À dans un mois. Merci Olivier.
Merci à toi David. Et bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.